Bonjour à vous, chers entrepreneurs. Bienvenue dans votre balado, vos solutions RH. Aujourd'hui, nous entamons la troisième étape qui est cruciale pour le recrutement et la sélection de vos candidats. Nous vous avons préparé trois capsules différentes pour aborder les rondes d'entrevue. Vous écoutez présentement le sujet des entrevues téléphoniques. Je suis Marie-Ève Ménard, directrice du service aux entreprises chez Développement Vaudreuil-Soulanges, et je suis accompagnée de Marc-Claude Morin et de Valérie Villeneuve, toutes deux associées et expertes conseils chez Alternative RH. Bonjour, mesdames.
Bonjour, Marie-Ève. Merci encore pour cette belle invitation. On est vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui pour discuter de cette étape du processus de recrutement qui est souvent oubliée ou non réalisée parce que les entrepreneurs la jugent non nécessaire.
On essaye d'aller vite, hein, là. On a vu les CV, on les a analysés, puis on a hâte de rencontrer les candidats. Fait qu'effectivement, les gens oublient que le premier point de contact peut être par téléphone et doit être fait. Donc, raconte-nous, Marc-Claude, là, exactement pourquoi c'est un élément essentiel du processus de recrutement, puis surtout l'importance qu'on doit accorder à l'appel téléphonique.
Bien, les entrevues téléphoniques, ça permet aux employeurs de se faire une première évaluation, une première idée des candidats, sans avoir à les rencontrer en personne. Donc, ça permet vraiment d'économiser du temps, des ressources, hein, parce qu'on va convoquer au final, en entrevue, que les candidats qui sont les plus prometteurs. Puis en plus, intéressant, une entrevue téléphonique, ça prend généralement entre 15-20 minutes, à l'inverse d'une entrevue en personne qui peut prendre d'une heure à deux heures selon le poste. Donc, belle économie de temps pour beaucoup d'apports.
Tellement, puis les entrevues téléphoniques, ça offre l'occasion aussi d'approfondir des aspects du CV du candidat, d'aller clarifier des points, puis de vérifier que le candidat, bien, il correspond vraiment aux besoins de l'entreprise. T'sais. On peut aller valider les compétences clés, donc ça nous permet de valider tout plein d'informations avant de se rendre à la prochaine étape.
J'imagine que c'est là qu'on ressort là, nos petites feuilles de notes, nos premières grilles. Et on se rappelle quand on avait analysé le CV, on avait pris des questions là, un peu par rapport à ce qu'on voyait qui était plus précis sur le candidat. Là, on les intègre dans une démarche un petit peu plus structurée. Fait que parlez-moi un petit peu là, comment je structure cette rencontre-là avec ce que je voyais sur le CV du candidat.
Donc, tout d'abord, c'est important de préparer une liste de questions pertinentes en fonction du poste et des compétences recherchées. On va ressortir le CV, toutes les notes qu'on avait prises. On va regarder tout ce qui semble particulier. Donc, par exemple, une faible rétention dans un emploi, une séquence de 6 mois, 2 ans, 1 an, où le candidat a changé d'emploi souvent, mais aussi où il n'a pas eu d'emploi. Donc, toutes les petites choses qui ont semé des points d'interrogation,
c'est le temps de les clarifier.
Donc, ça nous permet de guider l'entrevue et surtout de couvrir tous les aspects qui vont être importants. Vous avez d'ailleurs une liste, un modèle de liste de questions sur le site de Dev.
Ce qui est important aussi en entrevue téléphonique, c'est d'établir une connexion avec le candidat dès le début de l'entrevue. Fait que quand on commence l'entrevue, on ne va pas partir avec notre liste de questions. Là. On va demander au candidat, premièrement, est-ce que c'est un bon moment pour se parler ou est-ce que vous aimeriez mieux planifier une entrevue à un autre moment? T'sais? On veut que la personne soit à l'aise de nous parler et qu'elle soit dans un bon environnement. T'sais, en ce moment, la personne est peut-être au travail, à son employeur actuel, elle est peut-être en train de faire l'épicerie. Bref, c'est peut-être pas le meilleur moment pour répondre à nos questions. Fait qu'en lui laissant l'ouverture de replanifier un moment, on est en train de démontrer beaucoup de flexibilité puis d'ouverture à cette personne-là dès le début. Après ça, pendant la rencontre, bien, on veut une atmosphère qui est détendue, qui est amicale. L'objectif, c'est d'apprendre à se connaître, de voir s'il y a un bon fit. Donc, plus on est, on crée une belle ambiance dans cet appel-là, bien, meilleure la communication va être. Le candidat va se sentir à l'aise et il va nous révéler plus d'informations. Il va être en confiance, fait qu'il va nous donner les informations qu'on a besoin. Quand on est un petit peu trop direct, la personne se ferme, puis elle va se sentir un peu scrutée, puis elle va moins se laisser aller dans ses informations.
Bien, moi, je reçois cette information-là, Valérie, en me disant que c'est le temps de briser la glace avec le candidat. Hein? Fait que comme ça, quand on va arriver en première entrevue, bien, on va avoir déjà une partie de la gêne, une partie gêne qui va être mise de côté. Donc, effectivement, là, c'est un bon point. Je comprends aussi l'importance pour l'employeur de bien se préparer. Puis j'aurais tendance à me dire que moi, mon premier réflexe, ça serait de voir est-ce qu'on a un réseau de contacts en commun? Est-ce que je connais cette personne-là? Légalement, là, pouvez-vous me parler un petit peu plus du droit ou de la possibilité d'utiliser les médias sociaux pour pouvoir aller me renseigner sur le candidat. Je peux-tu faire ça?
C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire ça? Roulement de tambour? Drrr. Oui, on peut. C'est légal d'aller, en bon français, stalker les gens sur leurs médias sociaux parce que les médias sociaux sont considérés comme du contenu public, donc on peut les utiliser dans le recrutement. Par contre, nous, on ajoute un bémol à cette technique-là parce que chaque humain a des biais, hein, puis bien évidemment, en allant scruter les médias sociaux des futurs employés, bien, ça se peut qu'on voit des choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec nos valeurs ou qui activent ces biais-là. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Moi, par exemple, je pourrais voir une photo de famille d'une candidate, puis elle a une photo de famille avec 7 enfants, puis là, je me commence à me dire, oh mon Dieu, est-ce qu'elle va être disponible? Est-ce que ses enfants vont toujours avoir la gastro? Bref, je pars dans des images préconçues que j'aurais pas eues si j'avais pas regardé ses médias sociaux. Ou un autre candidat, par exemple, qui est tout le temps, toutes ses photos, c'est des photos au gym, pas de chandail, ça pourrait activer d'autres biais. Donc, on se rappelle, en recrutement, on veut pas faire de discrimination, hein? On se rappelle des 14... facteurs de discrimination qui sont illégaux au Québec. Donc, il faut se questionner sur notre utilisation éthique. C'est pas parce que c'est légal que c'est éthique. Donc, on va se poser des questions avant de l'utiliser. Si vous choisissez d'aller de l'avant en regardant les médias sociaux de vos candidats, bien évidemment, on va vous recommander de vérifier les médias sociaux avant de passer aux choses sérieuses avec l'entrevue téléphonique, parce que c'est sûr que si ton candidat est rendu à la fin de ton processus, puis que là, tu vas voir son Facebook, puis il y a des choses qui te dérangent, bien, c'est pas un facteur discriminant, là. Je peux pas dire, bien, t'as fait un super beau parcours, tout est beau, mais t'as des photos de toi en chest sur Facebook, donc malheureusement, t'auras pas le travail. Je veux dire, ça passera jamais. Donc, si vous voulez aller vérifier les médias sociaux, allez-y. Mais allez-y en début de processus, s'il vous plaît, puis assurez-vous que vous le faites de manière éthique.
C'est un bon rappel, Valérie, tu nous fais que tout ce qu'on met sur le web laisse des traces. Hein? Donc, on y va de façon réfléchie, puis merci de la précision. Maintenant que j'ai ces informations-là avec moi, je me suis préparée. Comment je peux évaluer les réponses de mes candidats? Comment je peux m'assurer que je prends des bonnes décisions pour le faire passer à la prochaine étape?
Bien, la première chose, je dirais que c'est d'écouter, hein, d'être attentif aux réponses du candidat, de prendre des notes pour se rappeler les détails importants. Au téléphone, ça va vite. C'est vraiment important aussi de poser des questions de suivi pour obtenir des éclaircissements, des exemples concrets, des exemples de mise en situation où, au lieu de demander « tu te mets combien en anglais sur 10? », de poser la question en anglais directement, de m'adresser au candidat en anglais, si c'est un élément important dans le poste, évidemment.
Donc, tout de suite le faire parler oui. En anglais, là, directement à cet endroit.
Yes, my next question is bla bla bla. Donc, okay. On y va et on
le force.
Oui, on va voir tout de suite la réaction du candidat. Est-ce qu'il est capable de me répondre ou pas? Aussi, il y a plusieurs candidats qui sont très, très bons pour vous donner des réponses très évasives. J'ai déjà demandé 3 fois à une candidate la question suivante. C'est quoi ton processus pour demeurer organisé quand il y a beaucoup de travail à faire? Et, bien, sans cesse, et plusieurs fois, j'ai eu la réponse, bien, je m'organise. Bien, je suis très organisée. Bien, j'organise les étapes.
Mais je m'organise pour être organisée.
Exact. Mais elle n'était pas capable d'identifier vraiment comment elle le faisait. Ça me disait pour moi 2 choses. Soit elle était très nerveuse, puis on comprend, on est nerveux aux entrevues, mais peut-être qu'elle n'était pas si organisée que ça, hein, puis elle n'avait pas de moyens de s'organiser. Donc, on doit écouter les réponses du candidat, mais aussi les non-réponses. Et une petite dernière chose que j'ajouterai, on doit écouter le bruit environnant. Écoutez, moi, j'ai passé une entrevue téléphonique et clairement, la personne faisait autre chose. Je dirais même que probablement que la personne faisait la vaisselle. Donc, ça ne démontre pas un très grand intérêt pour le poste, là.
Bien, effectivement, Marc-Claude, puis initialement, vous nous l'avez dit, là, que fort probablement que tu lui avais demandé si la personne était dans des bonnes prédispositions pour te parler. Fait qu'effectivement, on en apprend, là, avec des contextes comme ça.
Tu sais, c'est important de garder à l'esprit nos critères d'évaluation qu'on a établis au départ, hein, puis de les utiliser comme guide pour évaluer les réponses des candidats. Ça nous permet de rester objectifs et prendre des décisions plus éclairées. Des fois, il y a des candidats qui s'expriment très bien, puis là, on se laisse un peu flouer par leurs réponses. Bien, on revient à notre base, à notre guide, puis ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Puis on va avoir des biais, c'est évident, pendant le processus de recrutement. C'est tout à fait normal, c'est humain. Marc-Claude et moi aussi, on en a. Il ne faut pas se laisser avoir avec ça. Mais plus on a des critères précis puis qu'on se ramène à ça, bien plus on va être capable de rester objectif.
Est-ce qu'il y a des questions clés, les filles, qu'il faut absolument intégrer dans nos grilles d'entrevue? Là? Le genre de questions qu'il ne faut pas passer à côté durant l'appel téléphonique?
Bien, je dirais que la première question, c'est est-ce que tu te cherches toujours un emploi? Hein? On a parlé depuis le début des marchés lents et des marchés rapides. Ça va très vite, donc est-ce que la personne est toujours à la recherche d'un emploi? Ensuite, on lui demande de faire elle-même un survol rapide de son CV, mais en lien avec le poste qu'on veut combler. Bien, ça nous permet déjà de voir la capacité de synthétiser son parcours. Hein? Est-ce qu'elle est capable de nous faire ça rapidement ou c'est un long chemin? Ça lui permet aussi de nous expliquer certaines irrégularités qu'on avait vues dans le CV. Ça lui permet aussi de nous dire les compétences qu'elle a acquises avec le poste, en lien avec le poste qu'on veut combler. Évidemment, on demande pourquoi elle souhaite quitter son poste si elle est en emploi, si la personne travaille maintenant, pourquoi elle veut quitter. Puis moi, bien, j'aime bien me préparer une question dont la réponse va être évidente pour moi. Donc, je le sais exactement à quoi m'attendre. Par exemple, dans le cas d'un vendeur, je vais toujours demander c'est quoi les qualités d'un bon vendeur. Bien, tu sais, je m'attendrai quand même à entendre quelque chose qui tourne autour de la capacité à convaincre dans ses réponses. Fait que, on se prépare des questions à l'avance.
Poser des questions sur les attentes salariales, les attentes d'avantages sociaux, c'est vraiment un point hyper important dans les entrevues téléphoniques. Pour vous donner un exemple, on avait un client qui cherchait une adjointe administrative. On avait une candidate de rêve, là, un CV extraordinaire avec une bonne stabilité en emploi, vraiment une candidature exceptionnelle. Puis là, on lui a fait l'entrevue téléphonique, puis la madame, elle a travaillé dans le secteur minier. Fait que c'est des salaires très, très élevés, puis elle s'attendait à un salaire de 100 000 minimum.
Oups!
Ben ouais, oupsie! Ça a vite mis fin à cette candidature-là, malheureusement, malgré qu'elle était très compétente, puis que je suis certaine qu'elle valait chaque dollar de son 100 000, bien, le client n'avait pas cette capacité de payer-là pour cette candidate-là. Fait que c'est vraiment important d'aller valider ça. Ça va économiser beaucoup de temps à tout le monde. Demandez les attentes en termes de télétravail. De toute façon, si vous ne le demandez pas, les candidats vont vous le demander. Là, si ça s'y prête, là, les gens vont vous demander c'est quoi la politique de télétravail. Puis, quand on n'en a pas en place, qu'on dit bien, c'est flexible, on ne sait pas trop, bien, ça met la puce à l'oreille à la personne qui va peut-être falloir qu'elle se batte pour son télétravail. Fait que je vous dirais déjà à l'avance de statuer combien de jours la personne peut être en télétravail.
On s'adapte au marché, hein, parce que cette question-là, elle a vraiment évolué dans le temps. Puis là, on s'attend à ce que l'employeur soit vraiment bien précis sur ce genre d'aspect-là.
Absolument. Puis on serait surpris du nombre d'employeurs qui ne sont pas précis sur cet aspect-là. Puis ce qui est important aussi, c'est de valider, par exemple, comment la personne voit son transport vers notre organisation. Donc, des fois, sur le CV, on a l'adresse. Fait qu'on sait la personne à part d'où à peu près. Mais des fois, on n'a pas l'adresse. Puis de poser cette question-là permet de s'assurer, un, que la personne a pris conscience que le bureau, il est à Vaudreuil-Dorion, il est à Saint-Paul, puis il est à Pincourt, il est où? Puis de dire, OK, bien, comment tu vois ça de venir travailler au bureau trois fois par semaine, par exemple? Tu sais, nous, on a déjà eu des candidats qui étaient comme, bien, moi, je vais venir en métro. Bien, mauvaise réponse. Il n'y a pas de métro ici à Vaudreuil. Fait que ça va peut-être être long. Puis là, quand la personne a fait son chemin pour se rendre, puis qu'elle réalise que c'est 1h30 de transport en commun, puis que les horaires de transport en commun sont peut-être pas adéquats avec le travail, ça déchante vite. Fait qu'on peut pas demander des questions comme « As-tu un véhicule? Possèdes-tu un permis de conduire? » C'est pas le genre de questions qu'on va aller poser. Mais on peut dire « Comment tu vois de te rendre à Saint-Polycarpe 3 jours par semaine? » Ça, ça va nous donner l'information. Fait que si la personne a dit « Bien, je pensais venir en vélo. » OK, bien, l'hiver. T'sais, on peut ouvrir plein de discussions comme ça qui nous permet de voir un petit peu plus loin. Donc, c'est très important. Sinon, je vous dirais, en plus de comparer les réponses du candidat à vos attentes initiales, ce qu'on a discuté, dans le fond, c'est vraiment important parce que ça va nous éviter de tomber dans le piège d'un bon communicateur. On dit souvent la blague, nous, qu'un bon communicateur pourrait sûrement passer l'entrevue pour être médecin si c'était juste une entrevue, là, tu sais. T'as juste à apprendre une couple de notions clés puis à le sortir. Puis on a souvent des clients qui vont embaucher des gens qui sont d'extrêmement bons communicateurs, puis après ça, sont déçus parce qu'ils arrivent sur le terrain, puis ils ne sont pas capables de rien faire. T'sais. Fait que laissez-vous pas avoir par les bons communicateurs. Revenez à votre grille, revenez à vos points importants pour vous. Puis si la personne, elle communique bien, mais qu'elle a plein de crochets rouges, là, embauchez-la pas, ça vaut pas la peine, c'est juste du vent.
On se rappelle qu'il faut se fier à son instinct, on en avait déjà parlé précédemment aussi. Là, mettons, j'ai l'entrevue téléphonique, ça passe super bien, j'ai des bons espoirs par rapport à cette candidature-là. Qu'est-ce que je fais? Comment je conclue ça, cet appel-là? Est-ce que je lui dis que je dois appeler d'autres candidats? Est-ce que je peux le séduler immédiatement pour venir le rencontrer? Ça serait quoi votre recommandation par rapport à ça?
Bien, on a parlé des marchés lents, des marchés rapides. Donc, clairement, si j'ai l'impression que j'ai un candidat de choix, presque une perle rare, bien, j'aurais dû à l'avance planifier quelques plages horaires où je peux tout de suite le convoquer en entrevue parce que je ne veux pas l'échapper. Si je ne suis pas certaine, je vais le remercier. Je vais lui dire que j'ai quelques appels à faire, mais je vais, dans tous les cas, revenir vers la personne. Donc, si je fais mes autres appels et que je les convoque en entrevue, c'est parfait. Mais si je ne les convoque pas en entrevue, évidemment, je rappelle et je remercie le candidat. Mais je lui dis qu'on a eu plein de bons candidats et j'arrête ça là. Mais je convoque tout de suite les meilleurs.
Merci, les filles. Encore une fois, vous avez été très, très généreuses dans les exemples. Je pense que les gens sont capables, là, à partir de maintenant, de faire des bonnes entrevues téléphoniques, puis que ça va être efficace, puis ça va ouvrir la porte même à aller un petit peu plus loin lors des vraies entrevues en personne. Donc, on va revenir sur cet aspect-là lors du prochain balado. Donc, restez des nôtres. Merci, les filles.
Merci, Marie-Ève.